Bonsoir sur 88.4 Radio Galère. Et comme chaque semaine, de 18h à 19h, une heure en Palestine. Une heure pour parler de ce qui se passe là-bas, de ce que nous pouvons faire ici ou de ce que nous faisons ici en France ou ailleurs dans le monde, tout ce qui se fait en soutien à la résistance, à la lutte pour la dignité du peuple palestinien. Et on commence tout de suite avec une information autour de Salah Hamouri. Suite à leur plainte conjointe déposée en avril 2022, la Fédération internationale pour les droits humains, la FIDH, la Ligue des droits de l'homme, LDH, et le défenseur des droits humains franco-palestinien Salah Hamouri ont reçu la semaine dernière, donc première semaine de juillet, la confirmation que le parquet de Paris avait ouvert une information judiciaire portant sur l'infiltration illégale du téléphone de M. Hamouri. Nous saluons cette prompte réaction du parquet de Paris et espérons que cette enquête, menée par un juge d'instruction indépendant, fera la lumière sur l'utilisation illégitime des technologies en violation des droits humains et du droit pénal français par le groupe NSO, a déclaré Emmanuel Daoud, Clémence Bechtart, et Patrick Baudouin étant le nouveau président de la Ligue des droits de l'homme, qui ont porté plainte en avril 2022 au nom de la Fédération internationale des droits humains, de la Ligue des droits de l'homme et de Salah Hamouri. Salah Hamouri, toujours détenu par les autorités israéliennes sous le régime de la rétention administrative, a désormais le droit de se constituer partie civile dans la procédure judiciaire ouverte en France et d'exercer tous les droits attachés à cette qualité par la loi pénale française. Au nom de la campagne menée par la coalition Justice pour Salah, nous saluons la décision du procureur de Paris d'avoir franchi cette étape importante contre la société NSO. Il souligne sur nos appels à la redevabilité pour prévenir les violations des droits humains, en particulier celles contre les défenseurs des droits humains, y compris notre collègue et avocat Salah Hamouri, a déclaré Shawan Jabarin, directeur général de l'ONG palestinienne Al-Haq. Nos organisations demandent aux autorités françaises de se mobiliser avec la plus grande énergie pour obtenir la libération de Salah Hamouri, ressortissant franco-palestinien. Un petit rappel de l'affaire. En octobre 2021, Salah a contacté l'association Frontline Defenders afin de procéder à un examen de son téléphone après avoir découvert que les téléphones d'autres défenseurs de droits humains palestiniens avaient été infiltrés. Frontline Defenders a examiné son enquête en novembre 2021 et a fait confirmer ses conclusions par d'autres spécialistes comme Citizen Lab et Amnesty International. La quête a révélé que les téléphones de M. Hamouri et d'autres défenseurs des droits humains palestiniens avaient été piratés par le logiciel espion Pegasus commercialisé par NC Group, une entreprise technologique israélienne. L'enquête a confirmé que le téléphone de Salah Hamouri avait été infiltré en avril 2021 et en décembre 2021. Salah Hamouri a demandé à la Fédération internationale des droits humains de le représenter pour porter plainte contre NSO Group, qui s'est illégalement servi de son logiciel espion pour pirater et infiltrer non seulement son téléphone, mais aussi tous les détails de sa vie professionnelle et de sa vie privée, l'empêchant ainsi, entre autres, de jouir de son droit au respect de la vie privée. Salah Hamouri est victime de persécutions par le gouvernement israélien depuis l'âge de 15 ans, lorsqu'il a été blessé par balle en 2000. Il a été arrêté pour la première fois à l'âge de 16 ans et il fait depuis l'objet d'un harcèlement continu de la part des autorités israéliennes, notamment 6 périodes d'emprisonnement et d'arrestation arbitraire, plusieurs interdictions de voyager, des cautions et des amendes exorbitantes, des assignations à résidence, la séparation d'avec sa famille, puisque son épouse française et ses deux enfants sont interdits d'entrer en Palestine, occupés par les autorités d'occupation, révocation de sa résidence permanente à Jérusalem et plus récemment, le 6 juin 2022, une nouvelle détention administrative illégale pour une période de 3 mois supplémentaire qui vient prolonger la détention administrative précédente de 3 mois. Et vous le savez, les détentions administratives sont soumises à des renouvellements indéfinis en vertu des lois militaires d'urgence appliquées par les autorités israéliennes. En effet, le 18 octobre 2021, le ministre israélien de l'Intérieur a pris la décision de révoquer le statut de résident permanent à Jérusalem de Salah Hamouri en raison d'une, tenez-vous bien, violation de l'allégeance à l'État d'Israël, c'est-à-dire qu'on impose à l'occupé, au colonisé, l'obligation de prêter allégeance à l'occupant, au colonisateur qui viole le droit international. Et à cette accusation s'ajoutaient des allégations formulées et définies de manière délibérément floue d'activités terroristes et ou d'affiliation à des entités terroristes liées à des renseignements secrets. Bien évidemment, il y a toujours des preuves secrètes dans des dossiers secrets qui ne sont communiqués ni à l'accusé ni à son avocat. Si cette décision, c'est-à-dire l'annulation de son droit de résidence, venait à être appliquée, Salah Hamouri, qui est né et vit à Jérusalem depuis 1985, serait expulsé de façon permanente de son pays d'origine, sans possibilité d'y retourner. Par ailleurs, cette décision créerait un dangereux précédent qui serait utilisé de manière systématique par les autorités israéliennes pour révoquer le statut de résident à tout jérusalémite palestinien, pour tenter de vider Jérusalem de sa population palestinienne, comme cela se fait déjà sous d'autres raisons, de manière différente, aussi bien à Silouane qu'à Sharjara, mais partout dans la zone de Jérusalem. Pour parler du groupe NSO, il a fait l'objet de plusieurs poursuites judiciaires dans le monde pour son utilisation illégale de technologies en violation des droits et principes relatifs aux droits humains. Plusieurs ONG, dont la Fédération internationale des droits humains, ont exhorté l'Union européenne à ajouter NSO à la liste des sanctions et à prendre toutes les mesures nécessaires pour interdire la vente, le transfert, l'exportation, l'importation et l'utilisation des technologies de NSO Group jusqu'à ce que soient mises en place les garanties satisfaisantes en matière de droits humains. Il est impératif que des sanctions et mesures appropriées soient prises lorsque des entreprises violent les droits humains, comme la Fédération internationale des droits humains l'a plaidé à maintes reprises, toute réglementation à cette fin au niveau européen doit s'attaquer à toutes les entreprises, y compris celles opérant dans le secteur des technologies. Ceci était une déclaration, un article des ONG Al-Haq, ONG palestinienne, de la Fédération internationale pour les droits humains, la FIDH, et la Ligue des droits de l'homme, LDH.
على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني.
On revient tout de suite avec le nouveau rapport des Nations Unies qui constate que les forces israéliennes ont tué 78 enfants palestiniens et en ont mutilé 982 l'année dernière. Israël devrait être ajouté sur une liste noire de l'ONU si sa violence contre les enfants palestiniens se répète cette année, a déclaré lundi dernier le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Dans son rapport annuel « Enfants et conflits armés », l'ONU a déclaré que les forces israéliennes donc, ont tué ces 78 enfants palestiniens, en ont estropié 982 et en ont détenu 637 en 2021. Je suis choquée par le nombre d'enfants tués et estropiés par les forces israéliennes pendant les hostilités, dans les frappes aériennes sur des zones densément peuplées, par l'utilisation de balles réelles au cours des opérations de maintien de l'ordre, a dit le secrétaire général des Nations Unies dans le rapport. Si la situation devait se répéter en 2022 sans une sensible amélioration, Israël sera mis sur cette liste, a-t-il ajouté. Jusqu'ici, cette année, au moins 15 enfants palestiniens ont été tués par les forces israéliennes, selon la branche palestinienne de défense des enfants internationales, DCI, basée à Genève. Le rapport annuel, qui fait état de graves violations contre les enfants dans les zones de conflit à travers le monde, a parfois provoqué des controverses sur les parties qui sont incluses sur sa liste noire. À la fin de chaque rapport, cette liste a pour but d'exercer une pression sur les États et les groupes armés à travers le monde pour les violations contre les enfants, violations qui sont d'abord vérifiées par l'ONU. Alors on peut s'interroger, Israël n'a donc jamais été sur cette liste. Pourtant, en 2014, il y a eu plus de 500 enfants tués par les bombardements. En 2008-2009, il y en a eu plusieurs centaines aussi. Dans le rapport de cette année, l'ONU a fait état de 2934 graves violations contre 1208 enfants palestiniens et 9 enfants israéliens en Cisjordanie occupée et en Israël. Les 17 enfants tués par les forces israéliennes en Cisjordanie, dont Jérusalem-Est, ont été mortellement frappés par des balles réelles, principalement au cours de manifestations, a noté le rapport. Dans la bande de Gaza, 69 enfants palestiniens ont été tués, la majorité pendant les 11 jours de la campagne de bombardement israélien. Parmi les 637 enfants palestiniens détenus à cette période, 85 ont fait état de mauvais traitements et de violations d'une procédure équitable par les forces israéliennes, 75% rapportant qu'ils avaient subi des violences physiques. Israël et les territoires palestiniens ont été, d'après le rapport, les témoins du plus grand nombre de violations vérifiées contre les enfants en 2021, avec le Yémen, la Syrie, l'Afghanistan, la République démocratique du Congo et la Somalie. Ce qui laisse imaginer que si cette année, Israël faisait l'effort de ne tuer que 75 enfants palestiniens, il échapperait à l'inscription sur la liste noire des Nations Unies.
على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني.
Et on revient des Nations Unies pour arriver au Parlement européen avec 138 parlementaires qui demandent à l'Union européenne de réagir, d'agir contre la colonisation et la dépossession forcée de Palestiniens, en particulier à Massafa Yatta. Ces 138 parlementaires européens issus des parlements nationaux et du Parlement européen et venant de 12 pays de l'Union européenne ont écrit à Josep Borrell, haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Cette lettre traite de la Palestine, notamment de deux décisions israéliennes qui constituent toutes deux de graves violations du droit international. Le plan de colonisation E1 et les dépossessions forcées et démolitions planifiées et continues de certaines des communautés palestiniennes les plus vulnérables, par exemple Massafa Yatta, région située dans les collines du sud d'Hébron. Voici la lettre telle qu'elle a été publiée le 12 juillet 2022, il y a une grosse semaine. Nous vous écrivons au sujet de la situation extrêmement grave dans les territoires palestiniens occupés en ce qui concerne deux décisions israéliennes récentes qui constituent toutes les deux de graves violations du droit international. Elles auront un impact considérable sur les droits de l'homme, des communautés palestiniennes vulnérables et menaceront les dernières chances de la solution à deux États privilégiés par l'UE. Les autorités israéliennes vont de l'avant avec le plan de colonisation apocalyptique E1. Le comité de planification de Cisjordanie approuvera probablement ce plan le 12 septembre. S'il est approuvé, nous serons à deux coups de crayon de sa pleine validité légale. Le plan 1 pourra être promulgué en quelques minutes, à tout moment et sans avertissement préalable. L'Union européenne et les États-Unis s'y sont toujours opposés avec succès, estimant qu'il s'agissait d'une ligne rouge. En raison de sa taille et de son emplacement, E1 diviserait la Cisjordanie, séparerait Jérusalem-Est du reste de la Cisjordanie et rendrait impossible la création d'un État palestinien indépendant et souverain viable. Elle entraînerait également la dépossession forcée de milliers de membres des communautés palestiniennes, dont la dépossession forcée de 1100 Palestiniens, dont 569 enfants. La dépossession forcée est également en cours suite à la décision de la Cour suprême du 4 mai concernant Massafer Yatta dans les collines du sud d'Hébron. Ces communautés vivent sous la menace d'une démolition depuis des années 1980 et 700 d'entre elles ont effectivement été expulsées pendant une période en 1999. Comme pour eux, il s'agit d'une grave violation du droit international. Ces actions soutiennent l'annexion continue du territoire palestinien par Israël et renforceront la réalité d'un État unique, aux droits inégaux et à l'occupation perpétuelle. Cela a conduit les organisations de défense des droits humains à qualifier cette situation d'apartheid. Nous demandons instamment à l'Union européenne à tous les niveaux de s'opposer à tous les processus de dépossession forcée des Palestiniens, y compris ces deux mesures et l'intensification des activités de colonisation à Jérusalem-Est, à Sharjara et à Silwan, dans les termes les plus forts possibles. Si nous ne le faisons pas, nous mettons en péril des futures chances de paix, mais minerons davantage le système international fondé sur ces règles. Seule une réponse urgente et vigoureuse de l'UE et de ses partenaires aura une chance d'empêcher ces mesures dont le gouvernement israélien n'a pas besoin et qu'il ne doit pas prendre. Le message adressé au nouveau Premier ministre israélien doit être clair. Ne faites pas avancer les projets illégaux et inacceptables de E1 et Massafer Yatta. Eh bien, on peut imaginer que le président Macron, lorsqu'il a reçu le nouveau Premier ministre israélien, son nouveau grand ami, a dû lui en toucher un mot. Et je ne reprendrai pas l'expression qu'il a utilisée, la vulgaire expression qu'il a utilisée. Mais vous pouvez imaginer que les propos du président Macron, si jamais il avait eu le courage de les tenir, dont je ne pense pas, voilà. Je suis même convaincue qu'il n'aurait pas du tout pensé à parler de tout cela à son ami. Eh bien, on peut imaginer que le nouveau Premier ministre israélien n'en a vraiment rien à faire, puisque tant qu'il n'y a pas de sanctions, les autorités israéliennes se fichent bien de tout ce que l'on peut dire, de ce que l'on peut faire, de ce que l'Union européenne ou les Nations unies peuvent dire et faire tant qu'elles ne sanctionnent pas. Et nous le savons tous, ce qui a fait bouger contre l'apartheid en Afrique du Sud, eh bien, c'est le boycott. Et c'est pour cela que nous appelons tous et toutes ici à lancer un boycott ferme de tout ce qui représente l'État d'Israël. On n'appelle pas à boycotter un Israélien, on n'appelle pas à boycotter une Israélienne, on appelle à boycotter tous ceux qui sont, d'une manière ou d'une autre, les représentants de l'apartheid israélien. Lorsqu'une tournée musicale, lorsqu'un championnat est financé, soutenu, sponsorisé par les autorités israéliennes, il est boycottable. Et j'en profite pour dire juste un mot, mais on y reviendra peut-être dans la semaine prochaine. Juste un mot sur ce trophée des champions qui est une véritable honte. Alors que la Fédération internationale de football a exclu la Russie, à juste titre, de la Coupe du monde de football pour son agression contre l'Ukraine, eh bien, le trophée des champions opposant le Paris Saint-Germain et le FC Nantes va se tenir pour la deuxième fois à Tel Aviv cette année, alors que Tel Aviv viole le droit international depuis 74 ans, 75 ans l'année prochaine. Et malgré cela, on va encore jouer. Un boycott est lancé. Les appels sont faits auprès du Paris Saint-Germain et du FC Nantes pour qu'ils n'aillent pas jouer à Tel Aviv. Mais on peut imaginer que malheureusement, ils y seront, car il suffit de quelques appâts financiers pour que tout le monde trouve son compte dans les violations du droit international. Mais malgré tout, il y a des choses qui avancent petit à petit. Vous vous en souvenez certainement, il y a quelques semaines, quelques mois même, les autorités israéliennes avaient décrété que 6 ONG palestiniennes étaient des organisations terroristes. Eh bien, le 12 juillet, 9 gouvernements européens ont déclaré qu'ils avaient rejeté la désignation par Israël de ces 6 groupes de la société civile palestinienne en tant qu'organisation terroriste. Cette annonce est une victoire majeure pour les organisations elles-mêmes, les militants politiques et les communautés palestiniennes qu'ils servent. Suite à la déclaration du ministre de la Défense, Benny Gantz, interdisant les 6 ONG en octobre dernier, les pays donateurs européens ont ouvert leurs propres enquêtes pour examiner les allégations israéliennes. Près de 9 mois plus tard, ces pays ont conclu qu'aucune information substantielle n'avait été reçue qui justifierait de revoir leur politique à l'égard des organisations et à ce titre qu'ils continueraient à financer et à collaborer avec ces groupes. Cette décision intervient plusieurs semaines après que l'Union européenne ait déclaré de la même façon, après avoir examiné les affirmations israéliennes, qu'elle continuerait à soutenir au moins une de ces organisations, Al-Haq. Alors revenons sur l'ordonnance lancée par Gantz, vous savez, celui qui était très fier d'avoir annoncé qu'il avait ramené Gaza à l'âge de pierre. Eh bien, Al-Haq Adamir, Bissan Center, Defense for Children International, section de Palestine, l'Union des comités de travail agricole et Union des comités de femmes palestiniennes. Cette ordonnance qui avait été publiée contenait très peu de choses et le gouvernement israélien a empêché les associations accusées d'accéder au supposé matériel, bien que ces organisations aient déposer une objection officielle devant les autorités militaires israéliennes, puisque pour la Cisjordanie, bien évidemment, ce sont des lois militaires qui s'appliquent. Pour étayer les allégations contre les ONG, dont certaines sont très respectées sur l'arène internationale, les émissaires israéliens ont envoyé un dossier classifié de 74 pages, dossier préparé par les services secrets israéliens, le Shin Bet, dossier transmis donc aux représentants européens en mai 2021, dans l'espoir de les pousser à cesser de financer ces organisations. Pourtant, le dossier n'a clairement pas réussi à convaincre les gouvernements, certains hauts fonctionnaires d'au moins 5 de ces pays, affirmant qu'il ne contenait aucune preuve concrète. Maintenant, la déclaration des 9 pays, dont l'Allemagne, les Pays-Bas, la France et l'Italie, confirme ce que bien d'autres organisations avaient exposé dans des rapports d'enquête sur ce sujet. Israël n'a absolument aucune preuve pour étayer ses affirmations. Et son dossier n'a pas réussi à influencer même les pays qui sont les plus proches et les plus amis. Aucun d'entre eux n'a pris ces allégations au sérieux. Un examen attentif des ONG ciblées par Israël montre qu'elles n'ont pas été choisies au hasard. Par exemple, Adamir, association dans laquelle travaille Salah Amouri, fournit des conseils et une représentation juridique aux prisonniers politiques palestiniens. Al-Haq a déposé des observations à la Cour pénale internationale concernant les présumés crimes de guerre et crimes contre l'humanité israéliens. L'Union des comités agricoles aide les agriculteurs à survivre aux tentatives de les expulser de la zone C de Cisjordanie. Defense for Children International, organisation dont l'organisation mère est basée à Genève, documente et mène des actions de plaidoyer pour tout ce qui concerne les arrestations systématiques et les abus sur les enfants par les autorités militaires et juridiques israéliennes. Et Bissan est un institut de recherche de gauche qui produit des analyses critiques sur l'occupation, tout comme l'organisation des femmes aide les femmes, fournit de l'éducation, fournit des activités et politise les femmes qui sont isolées dans la lutte. Dans ce contexte, Gantz, qui pourrait à l'avenir être convoqué à la Cour pénale internationale en tant que décisionnaire militaire clé, a un motif clair pour qualifier ces organisations de terroristes. Jusqu'à présent, Israël n'a pas encore mené de mesures drastiques pour donner suite à ces désignations, mais cela commence dès aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est en mesure d'empêcher les responsables de ces organisations de voyager, l'a déjà fait le directeur de Bissan, Ubay Al-Aboudi a été interdit de sortir, tout comme le directeur d'Adamir, Saar, Francis, n'ont pas eu l'autorisation de quitter le pays pour se rendre à des conférences ou à des congrès à l'intérieur. Maintenant, si les dons européens continuent, la balle sera renvoyée sur le terrain israélien. Et Israël a encore de nombreux outils pour agir. Il pourrait arrêter des employés, déposer des inculpations contre eux en tant qu'affiliés à des organisations terroristes et geler et confisquer directement les fonds de ces organisations, une étape qui pourrait conduire à une opposition frontale avec les États donateurs européens tant qu'ils auront la volonté de soutenir leur position. Comme l'a fait remarquer le responsable de Al-Haq, Shawan Jabarin, tant que l'annonce n'est pas nulle et non avenue, un couteau est placé autour ou sous notre coup. Effectivement, ce matin déjà, les autorités israéliennes ont commencé à menacer les membres de ces organisations en disant qu'elles étaient membres d'organisations terroristes. Voilà, on fait une petite pause musicale, on continue avec cette chanson. On aura deux chansons au cours de cette émission. Je vous laisse terminer avec Mohamed Al-Assaf.
على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني
فلسطيني. Alors on revient avec Ben & Jerry's. Vous savez, les fabricants de glace. En ce moment, il y a d'ailleurs des publicités pour acheter leur glace. Ben & Jerry's avait décrété il y a à peu près une année qu'ils ne voulaient plus que leur glace soit vendue dans les colonies israéliennes. Ils avaient été traités d'antisémites. Alors, il faut d'abord préciser peut-être que Ben & Jerry's a été fondé dans une station-service rénovée en 1978 par Ben Cohen et Jerry Greenfield, tous deux juifs de religion. Et le lobby de soutien à la politique criminelle de l'État d'Israël n'ont pas hésité à traiter Ben Cohen et Jerry Greenfield d'antisémites. Vous pouvez vous en douter, puisque dès que l'on dénonce les crimes de l'État d'Israël, eh bien, on est qualifié d'antisémite. Là, c'était un peu fort, mais malgré tout, ils n'ont pas hésité à le faire. Ben et Jerry's ne sont plus impliqués dans les opérations de la firme, puisqu'ils ont vendu leur entreprise à Unilever. Ils avaient toutefois, touchés par ces accusations, écrit dans le New York Times, quelque temps après que les accusations aient été portées, qu'ils soutenaient l'État d'Israël, mais qu'ils s'opposaient à son occupation illégale de la Cisjordanie. Donc, entre-temps, Unilever a été sollicité par l'entreprise israélienne qui avait la licence pour vendre les glaces de Ben & Jerry's. Et cette entreprise, détenue par Avi Singer, a racheté les droits à racheter la Ben & Jerry's à Unilever. Cette société est connue. Alors, je reprends. Selon le nouvel accord, les glaces Ben & Jerry's seraient disponibles pour tous les consommateurs, tant en Israël, en Cisjordanie occupée, y compris dans les colonies israéliennes. Ben & Jerry's, donc, c'est-à-dire Ben Cohen et Jerry Greenfield, ont déposé plainte devant le tribunal fédéral du district de Manhattan parce que la vente annoncée le 29 juin menace de porter atteinte à l'intégrité de la marque Ben & Jerry's. Et elle rappelle que lors de son rachat par Unilever en 2000, les vendeurs s'étaient expressément réservé le droit de préserver cette intégrité avec un conseil d'administration indépendant. Ce conseil d'administration indépendant a voté à 5 contre 2 en faveur de l'action en justice. Et les deux personnes nommées par Unilever ont voté contre, vous pouvez l'imaginer. Dans une déclaration, Unilever a indiqué qu'il ne discutait pas des litiges en cours, mais qu'il avait le droit de vendre l'entreprise contestée et que l'affaire était déjà conclue. Les avocats de Singer, c'est-à-dire l'acheteur, n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. La semaine dernière, Singer a réglé son propre procès avec Ben & Jerry pour avoir refusé de renouveler sa licence. Ce litige met en lumière les difficultés auxquelles sont confrontées les marques de consommation qui prennent position vis-à-vis des colonies israéliennes en Cisjordanie occupée. Colonies pourtant considérées comme illégales au regard du droit international et par une grande partie, pour ne pas dire la quasi-totalité, de la communauté internationale. Voilà, c'est simplement cette information pour montrer à quel point, avec de l'argent, on peut s'asseoir sur le droit international. Et c'est quelque chose qui, pour le moment, concerne les Palestiniens, mais qui, si nous laissons faire, nous concernera tous demain. Car s'il suffit à une poignée de milliardaires de détenir des médias, de détenir des grosses entreprises, de faire des dons, comme le fait actuellement le milliardaire israélo-canadien, pour acheter des places dans le Tour de France avec une équipe, on va dire, de mercenaires, car il y a dans cette équipe-là un Israélien, des Canadiens, des Britanniques, des Nord-Américains. On monte une équipe factice pour redorer l'image de marque de l'État d'Israël. On achète une entreprise qui ne veut pas être vendue, dont le produit ne doit pas être vendu dans les territoires palestiniens. Les lobbies sionistes sont en train d'essayer, par tous les moyens, de contourner le blocus, le boycott de l'État d'Israël. Et fort heureusement, des personnes comme Ben Cohen et Jerry Greenfield résistent et vont devant la justice. Une autre information, la Gay Pride de Lisbonne, qui refuse la participation de l'ambassadeur de l'apartheid israélien. En effet, le comité organisateur, qui comprend plus de 20 des plus importantes organisations portugaises œuvrant à la libération des queers et trans, a déclaré qu'il serait hypocrite de permettre aux États qui pratiquent la ségrégation, l'apartheid et la colonisation de se joindre à la marche. Avec cet acte significatif de solidarité, la Gay Pride de Lisbonne incarne le véritable esprit de l'indivisibilité de la justice. Elle se montre forte aux côtés des queers palestiniens qui appellent à refuser le programme de pinkwashing du gouvernement israélien, programme qui vise à se présenter à tort comme une société progressiste et tolérante, tout en décrivant de façon raciste les queers palestiniens comme étant en quelque sorte étrangers à leur propre société. Les attaques ignobles et diffamatoires de l'ambassadeur israélien contre le comité directeur de la Gay Pride de Lisbonne ne servent qu'à décoller le masque du programme de pinkwashing de l'Israël de l'apartheid. Partout dans le monde, on prend de plus en plus conscience de l'interconnectivité entre nos luttes et le refus des pratiques mensongères de pinkwashing, que ce soit par des régimes oppressifs ou des entreprises nuisibles. Ce texte a été publié par la campagne palestinienne pour le boycott académique et culturel d'Israël, le PACBI.
تلاقيني انا نهلي انا فديهم انا دم فلسطيني 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 انا دم فلسطيني
Donc, nous voilà revenus sur l'heure en Palestine avec Radio Galère. Et tout de suite, on passe à un entretien qui a eu lieu il y a quelques jours. Vous allez entendre, nos amies sont actuellement en Palestine. Elles sont actuellement à Gaza. Il est difficile de les contacter, mais elles nous ont laissé un petit message. Voilà, nous sommes sur Radio Galère, 88.4. C'est l'émission hebdomadaire Une heure en Palestine. Elle est enregistrée le 15, préenregistrée donc. Nous sommes à la friche de la Belle de Mai, dans les locaux d'Instant Vidéo, et nous sommes avec
Naïk Emsili
et Tiffany Tavo.
Voilà, alors, on enregistre avant votre départ. Vous ne serez pas là le jour de l'émission, le 20. Vous partez vers où et vous partez pourquoi?
Alors, on part en Palestine pour la 7e édition de la Biennale SIN, qui est une biennale d'art vidéo et de performance.
Alors, combien de temps et combien de villes? Qu'est-ce qui va se passer?
On part. La biennale, elle aura lieu dans 6 villes. 2 villes à Gaza, la ville de Gaza et la ville de Rafah, et ensuite à Ramallah, à Jérusalem, à Bethléem et à Taïbé, qui est de l'autre côté de la frontière de 67.
Alors, Taïbé, une petite ville qui fait une excellente bière, si c'est bien la même, que l'on peut trouver, y compris en France, vendue par le Philistin. Pas de publicité, mais quand même. Alors, vous avez des partenaires.
Oui. En fait, la Biennale, on l'a cofondée avec la fondation AM Catane. En 2009, Donc là, on a travaillé avec eux, mais la biennale aura lieu aussi dans deux structures à Gaza, notamment un nouveau lieu artistique à Rafah qui s'appelle Magazine 28, mais aussi à l'Institut français de Gaza qui est la seule instance, on va dire, internationale qui est encore ouverte à Gaza. Ensuite, elle aura lieu donc à la Fondation Katan, à Ramallah. On sera aussi accueillis par la municipalité de Ramallah dans un autre lieu, à Jérusalem, Al-Mamal Foundation, et un nouveau lieu aussi à Bethléem qui s'appelle Dar Jassir.
Magnifique. Donc vous allez parcourir en gros quasiment toute la Palestine en moins d'une dizaine de jours, mais je pense que ça va être un très grand moment. Donc les deux thèmes de la biennale et la programmation.
On a décidé en fait de travailler cette année autour de l'insurrection et de la solidarité, du non-alignement. Donc on projette deux programmations d'une durée de 30 minutes à peu près chacune, une qui concerne plus donc l'insurrection, la lutte pour les droits civiques, la lutte pour la liberté également et pour la résistance. Et la deuxième, elle concerne un peu plus les combats dits féministes, on en discutera des charges mentales, et voilà.
Des stéréotypes qu'on colle à la peau.
C'est un programme riche, et en particulier de mener, c'est une excellente idée que de mener ça en Palestine, où la lutte première pour essayer d'avoir un peu de liberté, de dignité face à une colonisation, étouffe parfois toutes les autres démarches qui seraient pour plus de liberté, aussi bien des femmes que de tout ce qui peut être LGBT, trans, etc. Effectivement, bravo pour cette belle initiative. Sur les performances, il y en a trois de prévues.
On emmène avec nous l'artiste Denis Cartet, qui est un artiste résident également de la Friche La Belle de Mai, et qui va nous faire découvrir sa performance qui s'appelle La Bulle, où c'est du vidjing en fait. Il va projeter des images, des clips musicaux, des images d'archives, des images documentaires sur une énorme bulle blanche gonflée. Et qui sera présenté dans l'espace public dans trois villes palestiniennes. Ensuite, nous avons aussi la chance en fait de présenter Sarah Violaine, qui est une jeune artiste qui discute en fait, qui parle de son identité toujours liée avec son corps, qui est un thème qui est très important aussi dans l'espace public palestinien.
Et la troisième performance, c'est dans le cadre de Ramallah Music, un festival qui se clôture quand Sine ouvre. Et donc, ça sera deux DJ slovènes qui, donc, eux, s'occupent du son, et six artistes palestiniens qui accompagnent ces sons avec des images.
Donc ça, c'est à Ramallah.
À Ramallah.
Ok, il y a des installations vidéo aussi.
Oui, on présente des installations vidéo, à Gaza au sein de l'Institut français. C'est une installation faite par Elodie Marland et qui nous montre en fait un bord de plage avec des vagues qui ruissellent sur la plage. Et quand les vagues ne sont pas sur le sable, on peut distinguer des écrits. Et l'écrit, c'est « Wave doesn't cross borders ». Qui est toujours très significatif concernant Gaza et ce qui se passe sur ses côtes. Et la deuxième installation, elle sera présentée à Magazine 28, qui s'appelle Trajectory 2. Celle-ci montre en fait ces 9 écrans éclatés et montre différents paysages, mais toujours avec le même point de vue. Donc, c'est-à-dire que quand on lève la tête sur les 9 écrans, on voit que la caméra se lève, la caméra descend, et qui nous montre en fait comment est-ce qu'on peut être aussi très... comment est-ce qu'on peut être dans une bulle et comment est-ce que nos regards peuvent être aussi très...
Fermés peut-être ou en tout cas dirigés.
Dirigés, ouais. Exactement.
Merci Tiffany, merci. Les programmations, alors
Voilà, c'est tout en fait. Entre ces programmations dont parlait Tiffany, celle qui est plus féministe, l'autre qui est plus généraliste, on va dire, elles seront diffusées dans les 5 villes dont on vous a parlé plus tôt.
D'accord. Alors ça, c'est ce qui va se passer dans quelques jours. Et ensuite, il y a le retour à Marseille.
Exactement, parce que quand on a créé la Biennale, c'était une de nos idées aussi, c'était de faire toujours un retour sur notre territoire. Et donc cette année, on a demandé à tous les partenaires avec qui on va travailler de nous proposer une programmation d'art vidéo d'artistes de Palestine qui sera présentée à Marseille pendant la 35e édition du festival Les Instants Vidéo qui aura lieu en novembre à La Friche notamment.
Ok. Vous avez peut-être une adresse, un site pour que les auditeurs aillent voir plus et découvrir SIN. SIN, c'est le nom de la Biennale.
Oui.
Ça veut dire quelque chose de particulier?
Oui, c'est Mahmoud de la Fondation Katane qui a trouvé ce nom. Pour lui, c'est à la fois la lettre X en arabe de l'inconnu et c'est aussi SIN, la scène en anglais, ou alors voir, toujours en anglais, to see, so SIN. Donc pour lui, c'était... ça illustrait ce qu'on voulait faire, qui était un croisement des cultures.
Eh ben, écoutez, ce qu'on peut souhaiter, c'est une super réussite. Et puis, le site, c'est Instant Vidéo.
Oui, instantvideo.com.
Instantvideo.com. Donc, nous, on invite tous les auditeurs à aller voir sur ce site. Et puis, une page Facebook aussi.
Une page Facebook et aussi un Instagram qu'on va nourrir au fur et à mesure de notre voyage.
Eh ben, écoutez, je vous souhaite un magnifique voyage en Palestine. Je vous souhaite toute la réussite pour SIN. Et puis on se dit à très bientôt à Marseille pour faire le point là-dessus avec Radio Galère sur 88.4 avec une heure en Palestine.
Voilà, c'était l'interview. Et alors, pour les dernières informations, l'inauguration a eu lieu hier soir à Ramallah. Vous pouvez voir sur la page de Marseille-Gaza-Palestine, page Facebook, vous pouvez voir les premières photos qui nous sont parvenues. Mais n'hésitez pas à aller sur le site d'Instant Vidéo, aller sur Instagram de Instant Vidéo, Instant avec un S. Et vous verrez ce matin, elles sont rentrées à Gaza. Tiffany et Naïk sont rentrées à Gaza. Elles ont envoyé une toute petite vidéo, mais bon, on est sur une radio, donc vous ne pouvez pas la voir. Du passage de frontières. Merci à l'Institut français de Ramallah et surtout à l'Institut français de Gaza et à son directeur pour tout ce travail qui fait que Marseille est présent en Palestine, est présent à Gaza et que nous n'attendons qu'une chose, c'est que Gaza soit beaucoup plus présent à Marseille. Et justement, pour aller dans ce sens de tout ce qui peut être culture, sport et autres, on va parler très rapidement d'une découverte qui vient d'avoir lieu dans la bande de Gaza. Il y a une semaine à peu près, enfin, il y a un peu plus, mais l'information est sortie il y a une semaine, c'est la découverte de grosses pierres anciennes dans un site archéologique mis à jour par des ouvriers égyptiens qui travaillaient à la construction d'une zone résidentielle à proximité du camp de réfugiés de Jabalia, au nord de la bande de Gaza. Une équipe d'archéologues dirigée par l'archéologue français René Elter s'est rendue sur le site à la fin juin et a trouvé les vestiges de ce qui serait le plus grand cimetière de la bande de Gaza datant de l'époque romaine qui, selon lui, remonterait à environ 2000 ans. En effet, la bande de Gaza abrite toute une série de sites archéologiques majeurs enfouis sous l'étalement urbain. Alors vous le savez, la bande de Gaza, c'est en fait cet étroit passage entre l'Afrique et l'Asie, puisqu'au-dessus, on se trouve pendant un petit moment en Asie. Et ensuite, on arrive en Europe, la Palestine elle-même se trouve en Asie, alors que l'Afrique commence en Égypte. Et toutes les migrations se sont faites par cette région-là. Et beaucoup de peuples s'y sont installés, ont fait souche, sont partis, ont fait la guerre, ont gagné, ont perdu, sont restés ou sont partis. Mais on va trouver dans la bande de Gaza de nombreuses strates avec différentes civilisations, différents peuples qui sont passés. Donc revenons à ce peuple-là. Le cimetière est le deuxième à être découvert dans cette région cette année. Après avoir inspecté le site récemment découvert, l'archéologue Elter a déclaré dans un communiqué de presse que le site contenait 100 tombes. Le premier cimetière découvert à proximité en contenait 40. Toutes ces tombes sont ornées de peintures multicolores et de couronnes de lauriers. Gaza était le foyer donc de diverses civilisations anciennes au cours de l'histoire. et de nombreuses ruines romaines s'y trouvent, comme l'église byzantine du camp de Jabalia. Une grande majorité de cimetières romains sont situés dans les zones côtières du nord de la bande de Gaza et près de l'ancien port d'Antédon, le deuxième plus grand port de Gaza à l'époque romaine. Le port était une étape importante pour les marchandises entre Gaza et les villes de ce qui est aujourd'hui Israël, c'est-à-dire de la Palestine de 48. Suite au conflit de mai 2021 entre les groupes armés palestiniens de Gaza et Israël, cela a provoqué la destruction massive de bâtiments résidentiels, l'Égypte a envoyé une équipe d'ouvriers et d'ingénieurs pour construire 3 cités dans le nord et le centre de la bande de Gaza. Au cours des opérations de dragage, un ensemble de vestiges antiques datant de l'époque romaine a été mis au jour. Il s'agit donc principalement de ces tombes, de vestiges d'églises et des pots en poterie contenant de l'or et des pièces de monnaie. Ces sites ont ensuite été fermés jusqu'à ce que les archéologues terminent les fouilles et transfèrent les objets en lieu sûr. Salam Al-Ferani, un ouvrier gazaoui du bâtiment, a déclaré au journal qui publie donc cet article, Al Monitor, « Je creusais avec les ouvriers à plus de 4 mètres de profondeur pour construire une cité résidentielle. Et les bulldozers ont commencé à sortir de grosses pierres du sol. Au début, je n'ai pas réalisé qu'il s'agissait de pierres anciennes, mais il n'a pas fallu longtemps pour que des vestiges commencent à apparaître au fond. J'ai informé le responsable du site qui a pris contact avec les autorités compétentes qui, à leur tour, ont chargé l'organisation Première Urgence Internationale spécialisée dans les antiquités d'évaluer le site. » Dans ce contexte, Fadi Al-Attal, un expert en archéologie, a déclaré que le cimetière abritait les corps des habitants de la zone historique du port d'Antédon à l'époque romaine et que les travaux étaient actuellement en cours pour le protéger du pillage. Selon Attal, des analyses sont en cours pour découvrir les propriétaires des tombeaux et leur position dans la société. Beaucoup d'antiquités romaines, a-t-il ajouté, ont commencé à apparaître récemment, y compris des cimetières et des églises, entre autres. Tous ces monuments et ces sites archéologiques font partie de l'histoire de notre peuple et de notre identité culturelle, et ils doivent être préservés, tout comme notre identité doit être protégée, a ajouté Attal. Il a souligné qu'à cause du manque de surveillance de ces sites archéologiques, en particulier ceux situés sur le littoral, beaucoup d'objets ont été emportés par les vagues de la mer, ainsi que le fait qu'il y ait un manque chronique d'experts spécialisés dans ce type de fouilles. Certains Gazaouis ont sorti des pierres et les ont vendues à des carrières qui les transforment en béton. Des objets anciens ont aussi été volés et vendus à des spécialistes. Alors, il faut rappeler que l'Institut biblique travaille beaucoup avec la bande de Gaza, en particulier 2 prêtres dont j'ai oublié le nom, qui font un travail remarquable. Et sous le camp de réfugiés de Chati, en particulier, il y a toutes les ruines d'un port aussi, d'un port romain et d'une cité romaine. Maintenant, pour mettre à jour tout cela, il faudrait détruire le camp de réfugiés. Et bien évidemment, vous pouvez imaginer que ce n'est pas à l'ordre du jour. Voilà, il faudrait des équipes d'experts pour éviter justement faire appel à des archéologues étrangers. Mais surtout, il faudrait protéger ces sites. Et la situation que connaît la bande de Gaza n'est pas très favorable à tout cela. Cependant, Gaza publie son premier guide archéologique. Avec une équipe de chercheurs et de rédacteurs, la chercheuse en histoire et en archéologie de Gaza, Iyam Al-Bitar, a travaillé de longues heures pour compiler ce guide archéologique qu'elle a publié sous le titre « Gaza, la porte d'entrée du Levant ». Dans une interview avec Al Monitor, Bitar a déclaré qu'il lui avait fallu 6 mois pour préparer le matériel scientifique du guide illustré. Elle s'est interrompue à rire et a dit qu'il lui avait également fallu environ 6 stylos pour la rédaction du manuscrit. Le 23 juin, le ministère du Tourisme et des Antiquités a lancé le premier guide illustré du genre pour faire la lumière sur les 39 sites archéologiques de Gaza. Le guide, selon le ministère, fournit des détails sur ces sites de l'enclave côtière, notamment les mosquées, les églises, les palais, les sanctuaires et les maisons anciennes parmi de nombreux sites. Chaque recoin de chaque site archéologique raconte une histoire remontant à de nombreuses années, une histoire sur qui a construit le site, sur sa composition, sa description architecturale et ses projets de restauration, a noté Bitar. Le guide offre des secrets sur les artefacts culturels découverts lors des fouilles archéologiques, à la fois au-dessus et au-dessous du sol. Il fournit les informations détaillées sur l'histoire des sites archéologiques, qu'ils soient islamiques ou chrétiens, et documente une partie des civilisations islamiques, ayoubides, mamelouks et ottomanes. En outre, il donne des informations sur les résultats de recherches et de découvertes archéologiques dans les monastères et les églises. Je pense en particulier à ces églises, cette église très ancienne, l'église Saint-Porphyrius, qui aurait été créée au 3e, 4e siècle après Jésus-Christ. Selon l'archéologue, le guide met l'équivalent également en évidence des détails importants sur les découvertes des fouilles à Tel al-Rukaysh, Tel al-Sakan et Tel al-Ajoul dans le gouvernement de Deir el-Bala, dans le centre de la bande de Gaza. Les mosaïques au sol à Abassan, au sud de la ville de Gaza, le site archéologique d'Al-Balakia et Tel al-Manazer dans la ville de Gaza. Nariman Kala, chercheuse en histoire, archéologue et directrice du centre Qasr al-Bacha, qui a également participé à la préparation du guide, a déclaré que l'équipe tenait à ce que le guide illustré serve de référence intellectuelle sur la civilisation de Gaza depuis les Cananéens qui s'y sont installés il y a 6000 ans. Nous nous sommes concentrés sur les découvertes des fouilles afin d'écrire sur l'histoire des sites mis à jour et les antiquités les plus importantes. Nous donnons donc à chaque signe l'importance qu'il mérite, a-t-elle ajouté. On va faire une petite pause musicale, on parlera football après, dans les dernières minutes. Donc, on est avec Dominique Grange et sa chanson « Abattons le mur » pour quelques minutes.
Derrière le mur qui balafre notre horizon et qui défigure la nature avec ses plaques de béton. Petit, il y a nos oliviers, nos puits, nos sources, nos collines et nos villages abandonnés qui furent jadis la Palestine, qui furent jadis la Palestine. Dis-moi où est passée la mer que l'on apercevait au loin avant qu'il s'empare de nos terres, depuis Gaza jusqu'au Jourdain. Petit, tu ne l'as jamais vue, elle est derrière les barbelés, elle est gardée par des blindés. La mer, on ne s'y baigne plus, la mer, on ne s'y baigne plus. Détruisons le mur de séparation, halte à l'apartheid, à l'occupation. L'exil de nos frères bientôt finira, Palestine vivra, Palestine vaincra.
Un oasis d'espoir. Le football est une source d'optimisme en Palestine, nous dit le Guardian. Malgré toutes les difficultés, l'équipe nationale s'est qualifiée pour la Coupe d'Asie 2023. Sa troisième apparition consécutive. De tous les postes dans le monde du football, on ne peut pas en trouver un plus difficile que celui de dirigeant de l'équipe de football de Palestine. Noureddine Ali, dont le second mandat a pris fin en 2021, c'est cela mieux que la plupart. Il y a des défis uniques, dit Ould Ali. Imaginez si Gareth Southgate, le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, avait la moitié de ses joueurs dans une autre ville et qu'il ne puisse venir ou qu'il y ait des checkpoints entre Liverpool et Manchester et que quelques joueurs doivent retourner chez eux. C'est la situation que vous vivez quand vous entraînez la Palestine. Et si la pandémie a rendu la réalisation des rencontres internationales difficiles, cela a été la même chose pour la formation palestinienne depuis leur entrée dans la FIFA en 1998. Le contrôle croissant d'Israël sur les territoires palestiniens depuis 1948 est une question internationale majeure avec des conséquences dans tous les domaines et le football n'est pas différent. Il y a eu quantité d'exemples, certains très médiatisés au cours des années. Par exemple, en 2007, 18 membres de l'équipe nationale se sont vus refuser un visa de sortie. Ce n'était ni la première ni la dernière fois pour un match de qualification crucial pour la Coupe du Monde à Singapour. Et l'organisation leur a offert une victoire par 3-0, ce qui est sympathique mais qui n'est pas satisfaisant pour des footballeurs qui ont envie de gagner avec leur jeu et pas forcément sur le tapis vert. En 2009, les footballeurs Ayman Al-Kourd, Shadi Chaké et Waji Mostahé ont été tués, tandis que les stades étaient bombardés. Loin des gros titres internationaux, cependant, il y a au quotidien des obstacles qui rendent plus difficile pour la Palestine d'entrer en compétition sur la scène internationale. Les gens de Palestine ne sont pas libres de leur mouvement, dit Ould Ali. Si vous voulez sortir, partir, alors vous devez passer par la quantité de checkpoints et si vous arrivez à les passer, vous devez alors encore passer la frontière vers la Jordanie. Dans l'expérience des coachs, le pire scénario, c'est que vous n'y arriviez pas du tout. Le meilleur, c'est que cela prenne entre 5 et 8 heures. Ensuite, vous avez un vol pour aller dans un autre pays et puis vous jouez un match épuisé par tout ce que vous avez vécu avant. Et malgré cela, la Palestine se maintient au 94e rang dans le monde. Elle s'est qualifiée pour la Coupe d'Asie en 2023, en juin, sous la direction de son nouvel entraîneur, sélectionneur, Makram Daboub. En tête du groupe qui comprend les Philippines, le Yémen et la Mongolie, elle a remporté les 3 matchs, marquant 10 buts et n'en concédant aucun. Selon Suzanne Chalabi, vice-présidente de l'Association du football palestinien, c'est une superbe réussite. C'est comme entrevoir une oasis d'espérance alors qu'on erre sans direction dans un désert de déception, dit-elle. Ces temps-ci, les Palestiniens se sentent abandonnés par leurs frères arabes et trahis par la communauté internationale. Ce n'est donc pas une surprise que l'équipe soit devenue un symbole important de l'identité nationale. Se qualifier dans des circonstances aussi catastrophiques renouvelle la foi des Palestiniens dans notre résilience nationale et notre volonté de survivre et de vaincre. C'est pourquoi, dit-elle, l'équipe nationale est connue sous le nom de Al-Fidaï. Ceci veut dire non seulement combattant de la liberté, mais ce type de combattant de la liberté qui peut la sacrifier entièrement pour la cause. Al-Fidaï est l'icône que chaque enfant palestinien aspire à être, et donner à l'équipe nationale une telle appellation en dit beaucoup sur ce qu'elle signifie pour la nation. Le succès à l'international n'est pas une mince affaire, mais il y a eu des problèmes dans le jeu à domicile. Gaza et la Cisjordanie ont leur propre ligue, car ce n'est pas simple de circuler entre les deux. C'est quand même quasiment impossible. Parfois, ils empêchent les joueurs de se déplacer d'une partie de la Palestine à l'autre, dit Ould Ali. Il a couvert ses paris en sélectionnant les équipes, ainsi quand vous avez 23 joueurs par exemple, vous devez gérer la situation. Vous en appelez certains de Gaza, certains de Cisjordanie, certains de Jérusalem, certains de Palestine 48. Il y a aussi eu des démarches pour appeler des joueurs de la diaspora en Europe et en Amérique du Sud, spécialement du Chili, où il y a une très 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 forte communauté palestinienne. Développer le jeu au niveau local est aussi un challenge. L'occupation restreint l'importation d'équipements sportifs, la construction de terrains et les installations d'entraînement, dit Chalabi. De nombreux footballeurs ont perdu la vie des mains des soldats israéliens. Des dizaines ont été arrêtés ou blessés de telle façon qu'il aurait été alors impossible de jouer au football. Et cet espoir né de la qualification de la Palestine pour la Coupe d'Asie en 2023, va faire monter le niveau des Palestiniens. Et comme le dit l'entraîneur, la Palestine sera alors comme les autres pays arabes, comme la Jordanie, le Liban ou la Syrie, puisqu'ils ont une culture footballistique similaire si l'occupation n'était plus là. Les équipes de ce genre n'ont pas été très loin dans la qualification pour la Coupe du Monde ces dernières années, l'Asie ayant automatiquement 4 places. Quand ce chiffre montera à 8 à partir de 2026, il y aura alors une possibilité d'apparaître un jour sur la plus grande scène du monde, la Coupe du Monde de football. Voilà, On va terminer cette émission peut-être avec une minute de Dominique Grange. C'est serré. En tout cas, Sidi, merci beaucoup pour la technique. Et on vous dit à la semaine prochaine pour, encore une fois, une heure en Palestine. Au revoir. Bintish Shalabi.